Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire Blavier et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Aujourd'hui, nous allons parler café, création d'entreprise, de valeur et de respect des producteurs avec Dayo Artsen, le fondateur de Café Mouda, mon fournisseur officiel de très bons cafés. Dayo partage avec beaucoup de joie son parcours, son entrée dans le monde du café, la découverte du travail des producteurs lors d'un voyage au Brésil, les championnats de dégustation de café où il s'est illustré, son expérience chez Coffee Makers, la création de Café Mouda et l'impact qu'il souhaite avoir pour les producteurs avec lesquels il travaille. Si vous avez aimé cette conversation et que vous avez envie de soutenir ce travail qu'est la création d'un podcast indépendant, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, à le noter, à laisser un commentaire et à le partager autour de vous. C'est par ces actions que le podcast sera visible alors, merci à vous. Maintenant, je laisse la place à Dayo et à cette conversation enthousiasmante que nous avons eu la joie d'enregistrer ensemble. Bonne écoute! Bonjour Dayo.
Bonjour.
Alors je suis ravie de te recevoir dans La Boussole, surtout qu'on m'a beaucoup parlé de toi. Différentes personnes qui m'ont dit que voilà, je devais vraiment te rencontrer. D'abord Benjamin, qui était un des fondateurs des Oiseaux, mais aussi Jean-Baptiste de No Flyer. Et puis en fait plein d'endroits où je suis allée et qui m'ont parlé de toi. Donc je suis vraiment ravie de te recevoir dans le podcast.
Ok, ça fait plaisir.
Et alors, je vais peut-être d'abord te laisser te présenter en quelques mots, si tu veux.
En quelques mots, ok. Donc, moi, c'est Dayo, je suis originaire de Gand, en Belgique. Ça fait plus de 10 ans maintenant que j'habite à Lille. Et donc, je suis le fondateur de Café Mouda, donc torréfacteur de café de spécialité à Lille. Et ça fait 12 ans à peu près que je travaille dans le café. Prof de PS de formation, et voilà, reconversion petit à petit, et très content d'être là aujourd'hui, de contribuer un petit peu notre pierre à l'édifice niveau café à Lille et ailleurs en France.
Super. Alors justement, c'est vrai que j'avais vu que tu étais professeur de sport à la base. Comment en fait tu es tombé dans le café ?
Alors, pour ça, il faut remonter un petit peu. Non, on peut d'abord parler comment je suis tombé dedans. C'est en Australie. En fait, après mes études de prof de PS, je suis parti à Melbourne parce que j'avais rencontré des gens australiens pendant mes études en Erasmus en Finlande. Et ils m'avaient invité de venir parce qu'ils disaient il y a beaucoup de travail. En plus, je jouais à l'Ultimate Frisbee. C'est un sport avec le frisbee qui est peut-être pas très connu ici, mais le niveau est très élevé en Australie, donc c'était une occasion également d'aller là-bas, d'essayer de jouer à plus haut niveau. Donc je suis allé là-bas et en fait il m'a fallu 2 mois pour faire valider tous mes diplômes pour pouvoir travailler là-bas, et pendant ce temps il me fallait un petit boulot j'ai postulé en fait dans une sandwicherie en bas de chez moi parce que ça donnait trop envie ce qu'il faisait. Donc c'était plutôt les sandwichs qui me faisaient l'œil. C'est là-bas que je commençais à la plonge parce que j'avais aucune expérience dans la restauration, et que je commençais à sympathiser avec le barista. Je buvais toujours juste un grand café noir avec 2 sucres juste pour me tenir éveillé. C'était pas vraiment le goût qui me plaisait particulièrement. Et un jour, il me dit, on arrête ça, je te fais goûter un bon flat white. Donc, c'est un double espresso avec du lait finement moussé. Et c'était super bon, c'était une vraie découverte gustative. Et voilà, petit à petit, il m'a appris à utiliser la machine, à mousser du lait, à faire un espresso. Et ça m'avait énormément plu. Pas non plus spécifiquement gustativement, mais juste les gestes.
Et la technique,
en fait. La technique, voilà. Okay. Mais aussi, le métier, en fait, c'est... Moi, j'adore le sport, j'adore bouger. Donc, en fait, t'es tout le temps en train de prendre des commandes, d'interagir avec les gens en face. Il y avait vraiment une super ambiance. En plus, les gens sont sympas, sont cool. J'aimais beaucoup cette dynamique de préparer du café, les gestes techniques de préparation avec le lait, l'espresso. Donc, voilà, c'est là-bas que je suis tombé dedans.
Et donc finalement, tu n'as pas travaillé comme prof de sport là-bas, tu as fait
quand même, pendant 6 mois, je faisais des remplacements dans un collège, mais ce n'était pas mon kiff, c'était vraiment un collège très très tradit, en costume et tout, vraiment.
D'accord, genre, ouais, uniforme
ouais,
et tout ça.
Ouais, tout okay. Uniforme, mais je l'ai quand même fait, c'était une bonne expérience, mais voilà, c'était des petits remplacements, donc j'ai gardé le travail dans le coffee shop en tant qu'extra, et c'est plus ça qui m'animait que le travail de prof. Mais après on est rentré en Europe avec ma copine.
D'accord.
Et on s'est installé à Lille parce que ma copine, elle voulait finir ses études en tant que prof de FLE, français comme langue étrangère.
Oui.
Et moi, je voulais quand même continuer en tant que prof en Belgique. Et ça me permettait de travailler en Belgique, comme on est à la frontière.
Pouvoir aller et venir facilement,
voilà,
en fait.
Exactement. Donc, c'était un peu le bon compromis. Mais en Belgique, c'est pas facile d'avoir un travail à temps plein dans l'éducation, surtout en tant que prof.
Okay.
On n'a pas le concours, ça n'existe pas. Donc, il faut enchaîner des remplacements et c'était pas facile à trouver. Donc, j'avais pas tout le temps des temps pleins et donc je cherchais quelque chose à côté et c'est en 2013 et c'est à ce moment-là que Coffee Makers avait ouvert.
Et donc, oui, tout à fait.
Rue de Paris à l'époque ça s'appelait.
Ouais. Et Pierre-Mauroy,
c'est voilà. Ça. Et ça tombait super bien parce qu'ils cherchaient quelqu'un en extra, pas en temps plein, avec un peu d'expérience. Et donc j'avais un peu d'expérience. Et donc c'était parfait. Et donc c'est vraiment chez eux que j'ai appris toute la partie origine, café filtre. Parce qu'en Australie, pour moi, le café, ça restait du café. Je ne savais pas qu'il y avait des origines, des process de séchage. Le café filtre, je ne connaissais pas du tout. Donc,
d'accord.
Tout ça, j'ai vraiment découvert chez Coffee Makers. Et c'était vraiment là-bas, je pense, la découverte de goût, d'arôme. Je me souviens la première fois que j'ai goûté un café de Kenya, ça goûtait vraiment comme un jus de rhubarbe, de cassis, c'était tellement fruité et je trouvais ça fou. Et ça, c'était vraiment un peu la deuxième découverte de « ah ouais, ça peut être ça le café » et qui m'a vraiment intrigué et d'aller plus loin dans cet univers.
Ouais.
Et ils venaient ensuite d'acheter une machine de torréfaction, donc ils commençaient à torréfier eux-mêmes.
Mm-hmm.
Et voilà, c'est chez eux que j'ai appris avec eux, vraiment de zéro, de l'art de la torréfaction, en goûtant, en faisant des tests. Donc c'était une période super riche, très formateur, très, très intéressant, où on pouvait vraiment explorer, parce qu'il n'y avait personne qui faisait ça à Lille, donc quelque part la possibilité d'expérimenter, de faire découvrir, tester.
C'est vrai que je pense que juste après, Marie et Germain ont ouvert Temper. Enfin,
exactement, un an après,
exactement. Et que finalement, c'est vrai que pour les amateurs de café, à l'époque, ceux qui voulaient vraiment boire de bons cafés sur l'île, il n'y avait que ces deux endroits-là, quoi. Enfin, Coffee Maker et puis après Temper, au final.
C'est ça, exactement. Mais Coffee Maker, c'était le seul à torréfier.
Ouais.
Donc ça, c'était... particularité, mais ouais, c'est maintenant il y a beaucoup plus de choix et c'est chouette,
mais c'est
bien, au début il
n'y
avait pas grand chose.
Et toi, en fait, comment tu vis en fait ce moment, parce que quelque part tu faisais toujours peut-être un peu des remplacements de prof de sport, mais j'imagine qu'à un moment tu décides peut-être de basculer à temps plein chez Coffee Maker. Comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu te dis finalement là où j'ai envie vraiment de travailler, c'est plutôt la partie coffee shop, enfin café.
Oui, j'avais vraiment cette doute. J'étais un peu entre les deux parce que, en fait, moi, j'ai une approche un peu personnelle à l'éducation. Je veux que ce soit libre, pas trop imposé ou il faut faire la gymnastique de telle façon très, très classique. Moi, jeune, j'ai fait l'école Freinet et en Suède, ensuite, j'ai fait un stage dans un même type d'école. Et ouais, j'adore pouvoir explorer et sortir l'éducation physique un peu de cette idée très tradie ou de gymnastique, de natation, d'athlétisme, mais plutôt aller dans une salle de sport ou aller marcher dans la nature. Et en fait, les écoles où j'arrivais en tant que remplacement, c'était assez tradie et je me sentais pas 100% à l'aise dans les écoles où j'allais pour les remplacements. Mais en même temps, donc le café, ça me passionnait plus, mais c'est aussi plus précaire. En fait, t'es payé au SMIC, donc c'est... Oui. Je me posais vraiment cette question, est-ce que je vais pouvoir faire ça pour le reste de ma vie? Donc il y avait vraiment ces questions entre un peu rémunération et passion. J'ai eu l'occasion, en fait, avec ma compagne en 2016 de partir au Brésil parce qu'elle, elle avait la possibilité de faire un stage payé de 9 mois à l'étranger avec le ministère d'affaires étrangères. Et donc il y avait toute une liste de possibles villes et pays.
Okay.
Et on avait repéré en fait les pays producteurs de café.
Mm-hmm.
Parce que l'idée, c'était de faire un peu une immersion, de vraiment aller découvrir sur place ce que c'est la production pour voir si c'est vraiment ça que je voulais faire. C'était un peu un test pour voir si je voulais continuer dans ce domaine ou pas. Et on est atterri au Brésil. Et ça a été une expérience incroyable. Pendant 9 mois, j'ai voyagé, j'ai rencontré des producteurs, j'ai vécu sur les fermes. Et c'est là-bas vraiment que j'ai senti que c'est ça que je voulais faire. Et voilà, c'était naturel.
Okay.
La décision a été prise là-bas je voulais continuer dans ce domaine. Mais pas forcément créer ma torréfaction. Parce que ça n'a jamais été mon rêve d'avoir ma propre société.
Mm-hmm.
Je ne viens pas du tout d'une famille d'entrepreneurs et je n'ai vraiment jamais eu cet esprit d'entrepreneuriat. Donc, je me voyais plutôt travailler pour un importateur pour faire du sourcing ou le contrôle qualité. C'est vraiment ça que j'avais en tête. Et j'avais quelques pistes. En fait, j'avais déjà donné mon préavis. Là, je vais un peu plus loin en 2020, début 2020. Donc, après le Brésil, j'étais retourné chez Coffee Makers.
Oui.
Et après, on avait eu des projets peut-être de reprendre. Finalement, ça ne s'était pas fait. Et du coup, début 2020, j'avais donné mon préavis parce qu'ils avaient fait le choix de revendre Coffee Makers. Et moi, j'avais quelques pistes avec des importateurs pour travailler chez eux. Et c'est là où Covid est arrivé.
Okay.
Et donc, tout s'est mis en arrêt. Ils ne pouvaient plus garantir les embauches. Donc, on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, pourquoi pas tenter de lancer
une aventure d'entrepreneur.
Voilà, c'est ça. Okay. Et j'ai eu de l'aide, en fait, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir rencontré une personne qui est un peu mon papa lillois, on peut dire, qui a beaucoup d'expérience dans l'entrepreneuriat et en fait qui m'a poussé, qui m'a enlevé tous les doutes que j'ai toujours eu vis-à-vis de l'entrepreneuriat et qui m'a aidé à me lancer en fait avec le moins de risques possible. Donc on a commencé très très petit, j'ai pas acheté mon propre torréfacteur, j'ai fait le choix de louer une machine chez des amis à Gand. Donc c'était beaucoup d'aller-retour au début, mais ça permettait de tester en tout cas.
Et de prendre le temps de voir s'il y avait de l'intérêt, si ça marchait.
C'est ça, exactement. Okay. Parce que torréfacteur, c'est un gros budget, donc je voulais pas prendre trop de risques et finalement ça a été le bon choix. Et voilà.
Et d'ailleurs, pour Café Mouda, t'as quand même une philosophie particulière. J'imagine que ce que t'as vécu aussi au Brésil, que t'as pu voir peut-être aussi pendant tes voyages, que t'avais aussi envie de travailler le café avec l'envie que les producteurs soient peut-être plus justement rémunéré. Enfin, est-ce que pour toi, c'était quelque chose d'important?
Oui, carrément. Et c'est vraiment pendant ce voyage au Brésil que je me suis rendu compte que le système, il n'est pas très correct. En fait, tous les cafés qu'on trouve en grande surface, c'est des cafés qui sont achetés à un prix boursier imposé aux producteurs, qui fluctuent. Et c'est vraiment de la spéculation. C'est des très grosses entreprises qui font fluctuer ce prix et ça correspond pas du tout avec le coût de production.
Oui, finalement, la réalité.
C'est ça. Ouais. Par exemple, rien qu'au Brésil, il y a des énormes fermes où tout est fait mécaniquement sur des plateaux, du coup avec un coût de production très bas parce que tout est automatisé. Et à côté, dans un autre état notamment où j'étais, c'est très montagneux, très, très humide. Tout est fait manuellement, donc le coût de production est beaucoup plus élevé. Et pourtant, les gens sont payés le même prix si on prend ce prix boursier, donc c'est pas du tout correct. Et donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur d'essayer de travailler différemment. D'où le nom aussi Muda, ça veut dire changer en portugais.
Ouais.
De travailler le café différemment, d'avoir un prix juste en fonction de la qualité et la quantité achetée, mais aussi de vraiment montrer le visage des producteurs. Parce que sur le système traditionnel, en fait, tous les cafés, ils sont achetés, ensuite, ils sont mélangés. Et à la fin, on obtient un café de Brésil, un café d'Éthiopie.
Ouais, évidemment, il n'y a pas du tout de terroir.
Aucune traçabilité.
Ouais.
Tout est mélangé. On parle peut-être juste d'une qualité. On parle souvent du Brésil Santos, mais Santos, c'est le nom du port. Ça n'a aucun lien avec le terroir ou... Donc, j'ai fait le parti pris de uniquement proposer des cafés qui ont une traçabilité jusqu'à la ferme.
Okay.
Donc, pas de mélange régional, pas de blend, vraiment des origines le plus pures possible pour vraiment partager le travail d'une famille ou d'une communauté et pouvoir travailler avec eux sur le long terme, d'aller les rendre visite et montrer aussi le côté humain du café.
Ouais, finalement les gens qu'il y a derrière et peut-être aussi le cœur qu'ils peuvent mettre à produire
ouais, exactement, parce que c'est un sacré boulot de travailler le café, c'est énormément de travail, on ne se rend pas du tout compte, et aussi avec tous les aléas météo, avec le changement climatique, ça devient très compliqué, avec des périodes de pluie où normalement ils n'ont pas de pluie, donc il faut tout le temps qu'ils s'adaptent aux conditions qui changent, et c'est très compliqué, donc j'ai énormément de respect pour eux, mais c'était vraiment cette expérience au Brésil qui m'a fait comprendre ça, parce que j'ai vécu avec eux, notamment avec une famille, j'ai participé à toutes les tâches, la récolte, travailler les champs, aller chercher des acheteurs, donc j'ai vraiment pu me rendre compte de ce que c'est vraiment d'être producteur de café, et voilà, et c'est beaucoup de boulot, et ça demande beaucoup de respect pour ça.
Ok, et donc quand tu lances Café Muda, donc tu expliquais, tu avais un torréfacteur que tu louais à Gand. Quel accueil tu as au début? Comment ça se passe?
À Lille?
Ouais.
J'ai eu la chance de déjà avoir eu un petit réseau parce que j'ai quand même travaillé pendant 5-6 ans à Coffee Makers. Donc à la fois pour les particuliers, des clients avec qui j'ai énormément sympathisé, qui m'ont suivi tout de suite. Donc ça, c'était vraiment super. Et aussi des restaurants, des coffee shops qui me connaissaient déjà en fait.
D'accord.
Ou des épiceries comme les Épicentriques qui était mon premier client pro qui m'a fait confiance à l'aveugle tout de suite, donc c'est j'ai vraiment senti un accueil très 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 chaleureux, et ça a fait très plaisir dès le début.
Ok, et donc finalement quand est-ce que tu décides, enfin j'imagine qu'au début est-ce que tu avais un petit local, un endroit, enfin comment tu gérais?
Oui, donc j'ai commencé chez moi.
D'accord.
Donc j'avais déjà ce local, mais il était en travaux.
Ouais.
Donc j'ai lancé une campagne Ulule en novembre 2020. Voilà, et j'ai eu les clés du local début décembre ici.
D'accord, okay.
Donc au début, j'avais tout chez moi dans mon, dans mon salon, l'imprimante, tous les sachets. Voilà, le café vert, je ne me souviens même plus. Ouais, je pense qu'on a fait livrer ici au local. On l'avait mis dans un coin, mais c'était en plein travaux. Ça ne ressemblait pas du tout à ce que ça ressemble maintenant. Voilà, et donc campagne Ulule. Et juste pour les particuliers, et ensuite j'avais un dépôt vente chez le Singe Savant.
Oui.
Pour les particuliers, donc eux aussi ils m'ont beaucoup aidé. C'est eux qui m'ont trouvé le local ici.
D'accord.
Comme ils sont ici depuis longtemps, voilà, ils ont un bon réseau ici. Donc je suis aussi très chanceux d'avoir eu ce soutien. Du coup, en fait, on a vraiment officiellement ouvert la boutique en mars, fin mars 2021.
Ok.
Donc les 3-4 premiers mois, c'était vraiment bricolage entre chez moi, les travaux ici et les trajets à Gand.
Ouais, oui, forcément.
Ouais. Mais c'est ça, c'était l'entrepreneuriat, ouais, c'est ça l'aventure.
Et donc toi, comment, Enfin, tu vois, comment, par exemple, la campagne Ulule, c'est vrai que souvent, c'est des moments qui sont assez intenses, mais qui donnent aussi beaucoup de visibilité, notamment pour la partie client particulier. Ça t'a apporté ça, enfin, ça t'a accompagné dans cette partie-là ?
Oui, tout à fait, mais c'était un peu dernière minute, parce que, en fait, si tu veux, mon idée au début, c'était que travailler les pros,
d'accord,
B2B, pas de
ouais.
particuliers. C'est pour ça que j'ai pris ce local qui est quand même à Lille, mais pas non plus à un endroit très passant, pour que je puisse recevoir des clients, pour faire des dégustations,
oui.
mais pas non plus ouvrir une boutique tout le temps aux particuliers. Mm-hmm. Mais voilà, c'est le confinement, encore une fois, je pense que c'était le deuxième confinement, c'est ça. Donc tout était fermé.
Oui.
Et moi, j'étais prêt, je voulais commencer à torréfier,
oui.
à commercialiser, mais tout était fermé. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas, vu qu'il y avait les fêtes de fin d'année, pourquoi pas essayer quand même de vendre aux particuliers. Et l'idée m'est venue de créer une campagne Ulule. Mais donc, ça a été très dernière minute qu'on a construit ça avec les filles de Studio Disco qui m'ont beaucoup aidé au niveau visuel. Pareil, toute dernière minute de concocter une campagne avec
ouais.
des visuels. Voilà, c'est ça l'entrepreneuriat,
ouais.
en fait, d'adapter en fonction des défis qu'on rencontre et trouver de tester et de trouver de nouvelles possibilités.
Et donc, ça a bien marché, j'imagine, cette campagne?
Ça a bien marché, ouais, plus que je pensais.
Okay.
Donc, c'était génial de pouvoir démarrer comme ça. Ça nous a donné un bon coup de boost pour les débuts. Ouais.
Génial. Et après, donc une fois que tu t'installes dans le local, là où on est d'ailleurs, là où on enregistre, comment les choses elles se mettent en place autour de toi ?
Donc c'était toujours le but de vraiment travailler le pro surtout. Mm-hmm. Donc vu que ça avait bien marché Ulule, je me suis dit je vais quand même tester, je vais quand même ouvrir 2 jours par semaine, vendredi et samedi aux particuliers.
Mm-hmm.
Et ben le premier jour, il y a eu la queue.
Okay.
Et du coup j'ai dit ok bon peut-être il y a quand même un intérêt apparemment. Donc voilà, on a commencé avec le vendredi, samedi, et après un petit moment, on a rajouté le mercredi et le jeudi en
oui.
fin de journée.
Okay.
Un peu les mêmes créneaux que Saint-Chavant et
oui.
Brode. Donc ça, c'était cool aussi qu'il y avait une petite communauté, un petit réseau local avec les mêmes horaires. Et pour moi, c'était parfait parce que j'étais tout seul, donc je ne pouvais pas non plus être ouvert tout le temps.
Oui, je ne veux pas être au four et au moulin.
Voilà,
comme ça, ouais.
exactement. Donc c'était parfait comme ça. Et ça me permettait de torréfier. Aussi de m'occuper des clients pro que au début je livrais à vélo moi-même, tu vois, je faisais tout, c'était si j'ai... maintenant j'ai
là tu te rappelles
ouais mémoire, je me rappelle
truc,
ouais. donc voilà, ça c'est vraiment je me sens très chanceux que ça s'est quand même très bien développé naturellement en fait sans pareil les pros, sans vraiment démarcher, que les gens m'ont contacté, m'ont fait confiance. Et
ça t'expliques
fait...
ça comment? Tu te dis...
Faut leur demander,
ouais.
je sais pas.
Peut-être du bouche à oreille aussi.
C'est sûr. Je pense que quand on... Après, c'est ce qu'ils me disent, quand le produit est bon, et après surtout le suivi, le service, ça c'est super important pour moi. Surtout le café, c'est un produit qui demande quand même des compétences pour extraire une bonne qualité. Parce
ouais.
qu'il ne faut pas juste les mettre dans le moulin et faire couler. Il y a vraiment des réglages assez précis du moulin, de la machine. Et si ce n'est pas bien réglé, on peut avoir vraiment un très mauvais café avec une bonne matière première. Et je pense le fait que j'ai eu toutes les compétences barista, ça m'a énormément aidé de former les équipes, de faire les bons réglages en fonction du client, hein, parce qu'on
ouais.
peut aussi s'adapter si c'est un coffee shop ou un restaurant qui veut quelque chose un peu plus passe-partout ou quelque chose de plus pointu, de pouvoir s'adapter. Ouais, je pense que c'est ça. Hein, et le côté aussi peut-être humain, qu'ils avaient l'habitude d'avoir des grosses sociétés, des industriels où c'est peut-être pas la même approche.
Ouais.
Je pense que tout ça, ça...
Oui, ça joue
jouer,
aussi.
Ouais.
Ouais, ouais. Tout à fait.
Mais il faut leur demander. Ouais, c'est...
Après, moi, tu vois, je sais que je suis assez sensible à ça depuis quelques années. Tu vois, sur moi, j'aime quand même bien le café. J'en bois pas forcément beaucoup, mais du coup, j'aime bien en boire du bon de ce fait-là. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que c'est que tes cafés, ils étaient vendus dans pas mal d'endroits où je vais. Je pense chez Brioche Sylvana, par exemple. Enfin, il y a plein d'endroits chez... Oui, chez Persil aussi, enfin depuis pas longtemps, ou des restaurants qui proposent tes cafés. Et en fait, je trouve que ça fait quand même une différence. En fait, enfin clairement, ça a pas le même goût que dans les autres. Donc, je pense qu'il y a aussi une satisfaction du client en face.
C'est ça. Et il y a quand même. C'est aussi pour ça que je voulais vraiment rester à Lille parce que. J'adore Lille pour tous ces restaurants, mais en fin de repas, la qualité du café qu'on avait, c'était vraiment pas ni à la hauteur qualité de ce qui a été servi à boire et à manger, mais pas non plus niveau traçabilité ou niveau philosophie. Et du coup, pour moi, il y avait vraiment quelque chose à faire. Et je pense le fait d'avoir pu faire découvrir aussi aux restaurateurs, parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui ne se rendent pas compte. Ils pensent que le café, c'est ça. Il n'y a pas autre chose. Et peut-être le fait de les avoir invités, d'avoir raconté tout ce qui est derrière, ce qu'on propose, de faire goûter, qu'ils se rendent compte que, ah oui, c'est vraiment différent. Et ça peut être ça, le café, qu'ils ont adhéré, qu'ils ont compris et que ça a été naturel.
Et derrière, de travailler avec toi, du coup.
Ouais, c'est ça.
Et donc, tu commences tout seul? Et maintenant, tu n'es plus tout seul.
Oui, c'est ça.
comment ça se passe? Parce que c'est vrai que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, quand on crée une entreprise, y a un petit peu des étapes. En fait, quand tu prends t'embauches ton premier salarié, c'est quelque chose qui est des fois... C'est quand même important, ça montre que ça fonctionne et que tu es en capacité en fait, de pouvoir embaucher quelqu'un. Pour toi, comment tu l'as vécu?
En fait, moi, j'ai toujours été assez prudent. Je ne suis pas l'entrepreneur qui est là, qui va investir et qui est très confiant. Non, je suis toujours très prudent. Et donc, la philosophie a toujours été de trouver un moyen d'évoluer vraiment étape par étape sans prendre trop de risques. C'était beaucoup de réfléchir. C'est vraiment pas évident, je trouve, de grandir et de faire ses pas et de trouver la bonne évolution sans que ça coûte en effet... trop ou sans prendre trop de risques. Donc, on avait trouvé... En fait, c'est vraiment par hasard. J'étais pas du tout... Je sentais que la charge de travail commençait à devenir assez importante.
Oui.
Mais je pensais pas non plus déjà être prêt à pouvoir embaucher quelqu'un. Mm-hmm. Donc ça, c'est vraiment... C'est 2021. Hein, c'était genre 6 mois après, je pense.
Oui, assez
lancement.
Rapidement quand même.
C'est ça. Et en fait, il y a une fille, une gonée, qui m'appelle. D'un coup, je reçois un appel et elle me dit « je vais apprendre à torréfier. J'ai un peu d'expérience dans le café. » En fait, c'est elle qui m'a poussé un petit peu à l'embaucher via une alternance parce que, elle avait un peu de compétences dans tout ce qui est communication et on avait fait en fait le compromis qu'elle allait faire des études de communication, m'aider un peu avec ça et ça me permettait d'avoir un premier salarié qui coûtait pas trop cher.
Ouais.
Voilà, et c'était un peu gagnant. Moi, je l'ai formé sur toute la partie torréfaction et café et donc c'était vraiment le bon compromis pour démarrer. Et du coup, après, j'ai pris une deuxième personne en alternance.
D'accord.
Un an après, plutôt pour le côté boutique, vente. Pareil, quelqu'un, un jeune, Augustin, qui est venu se présenter, qui cherchait du travail, qui était intéressé par le domaine de café. Donc, ça se fait comme ça. J'ai pas vraiment fait une annonce. Les gens sont venus me voir. Et maintenant, depuis septembre, j'ai embauché mon premier CDI. En fait, c'est mon ancien patron de chez Coffee Makers, Matt, avec qui je me suis toujours super bien entendu. Donc, je suis super content qu'il nous a rejoints. Donc, lui est maintenant notre torréfacteur principal. À temps plein. Donc, je suis super content.
Et alors, justement, parlant de torréfacteur, ton torréfacteur, tu l'achètes quand tu...
Oui, on l'a acheté, c'est la banque qui l'a acheté,
c'est un crédit.
C'est ça, il faut toujours le préciser. Parce que
c'est important.
Et c'est en décembre 2022, donc ça fait un peu plus d'un an maintenant. Donc j'avais calculé un petit peu à partir de quel volume de café torréfié ça valait le coup d'acheter ma propre machine. Donc maintenant on a pris un local à Tourcoing où on a fait toute la production. J'ai vraiment cherché à trouver quelque chose ici dans le coin, à Moulins, mais c'était impossible à trouver parce que c'est pas très facile niveau extraction, niveau gaz.
Oui.
C'est... En fait, il faut... c'est quand même, il faut un local un peu industriel. Mm-hmm. Donc on a trouvé.
Bon, ça reste en métropole lilloise.
C'est ça, exactement. Ouais. Et donc ça fait un petit peu plus d'un an qu'on l'a. Et c'est super parce que du coup, on a tout le café vert là-bas. On peut vraiment dédier la production là-bas et, mm-hmm. et garder la boutique pour la vente, les dégustations.
Okay. Et donc, qu'est-ce que ça a changé pour toi finalement de... Parce que tu sais toujours les allers-retours.
Oui, avant, voilà, donc beaucoup. Jusqu'à
avoir le temps effectif.
Ouais, exactement.
Okay.
Ouais, donc quand même, on a fait ça pendant 2 ans.
Hein. Ouais.
C'est ça. Donc rien que ça, ça a vraiment changé notre vie.
Oui,
d'avoir déjà tout le café vert aussi à un endroit bien posé sur les palettes, parce qu'avant tout était ici et c'était.
Ouais, c'était trop.
C'était vraiment un Tetris. Il faut imaginer, c'est des sacs de 60 kilos, donc ça ne se bouge pas non plus si
comme
facilement.
Ça. Ouais.
donc voilà, c'était le bon moment. Ça s'est vraiment fait exactement au bon moment, la transition.
Ouais, donc finalement, c'est plus pratique.
Carrément.
Ouais.
Mais je l'avais prévu, et ça c'est quand même important, aussi vis-à-vis de la banque, je l'avais déjà prévu que ça c'était la prochaine étape.
Mm-hmm.
Et ça c'est quand même important, si jamais d'autres gens qui veulent se lancer, de déjà avoir ça en tête, parce que sinon ça peut parfois être compliqué de lancer un deuxième prêt assez vite après le lancement.
Et là du coup, un outil, on va dire, un peu global, à la fois un outil de production, on va dire, avec la partie torréfaction à ton coin, et un outil plutôt commercial ici.
Donc, exactement, c'est ça.
Ok, super. Et aussi, moi, ce que j'avais lu sur toi, c'est que tu avais fait des concours, notamment quand tu bossais chez Coffee Makers, sur la dégustation de café, c'est ça ?
Oui, c'est ça. En fait, c'est après le Brésil. Donc au Brésil, j'ai... goûté beaucoup, beaucoup. J'ai notamment vécu sur une ferme où on goûtait tous les jours tous les cafés. Donc, quand je rentrais du Brésil, j'étais un peu entraîné.
Oui.
Et il y a mon patron, Matt, qui était devenu vice-champion de France en 2017.
Mm-hmm.
Et il voulait se représenter. Et du coup, il a dit « Ah, t'as pas envie de le faire ensemble ?» Donc, je me suis inscrit avec lui. On y allait et j'ai gagné par surprise. Personne ne me connaissait. Le petit Belge de Lille que personne ne connaissait. Donc, ouais, c'était une surprise aussi pour moi.
Et c'est des concours, il faut quoi, reconnaître le café en...
En fait, c'est des triangulations. Donc, on a 3 tasses de café préparées en filtre. Et il y a 2 tasses identiques et 1 tasse différente.
D'accord.
Ça peut être un autre pays ou ça peut être le même pays, mais d'une autre région ou voilà, une autre variété. Ça... Parfois, on va dire que quand le concours avance, ça devient de plus en plus difficile, très proche. Et c'est la personne qui a le plus de réponses correctes en moindre temps qui gagne ou qui avance dans le concours.
Donc ça, c'est pour la partie France. Et après, il y a des championnats au niveau monde, c'est ça ?
Oui, donc le champion de France peut représenter la France au monde.
Mm-hmm.
Donc la première fois, je suis allé au Brésil en 2018. Donc c'était génial parce que c'était à côté de la région où j'ai vécu. Donc je connaissais... Il y a beaucoup de gens qui sont venus et c'était sur un salon de producteurs de café.
Okay.
Donc c'était vraiment une super expérience. Et j'ai raté, je suis fini 18e je pense sur 5 ans, donc j'avais vraiment raté le deuxième tour à très peu. Et j'ai enchaîné sur le championnat de France 2019 après, que j'ai regagné. Donc je suis pu aller aux mondiaux à nouveau. Là, c'était à Berlin.
Okay.
Et là, je me suis vraiment entraîné à fond. J'ai dit, je donne tout. Je vois ce que ça donne. Et je suis arrivé deuxième. Donc ça, c'était vraiment une grosse surprise et une super, super belle récompense. Et ça a lancé un peu ma carrière aussi. Je pense que ça a aussi aidé au lancement de Mouda, parce que j'avais quelque part ce titre. Exactement.
C'est vrai. Surtout ça qu'en France, souvent, on est assez... tu vois, sur les diplômes, par exemple, on aime bien que les gens ils aient les bons diplômes. Même si ça évolue, hein, évidemment, c'est un petit peu moins vrai qu'il y a quelques années. Mais c'est vrai qu'on est un peu attaché au titre ou à ce que les gens peuvent avoir comme expérience. Donc j'imagine que... Même ne serait-ce peut-être que, par exemple, pour la banque, quand tu y vas, t'as aussi cette crédibilité d'être reconnu au niveau mondial. C'est pas rien, quand même.
C'est ça.
Et pour parler de l'entrepreneuriat, tu disais que t'avais ton papa lillois qui t'avait accompagné. Donc, t'as réussi à t'entourer Pour toi, qu'est-ce que ça a changé aussi, ça ?
C'est une tranquillité d'esprit. C'est, en fait, dans l'entrepreneuriat, on rencontre beaucoup de problèmes. Et c'est tout le temps à résoudre des problèmes. Mmh. Et du coup, on peut vite paniquer. Et d'avoir quelqu'un qui a déjà vécu ça, c'est quelqu'un qui a construit des usines, qui a vraiment traversé un parcours incroyable. Et cette... qui me disait, c'est pas grave, on va résoudre. Et rien que ça, ça donne beaucoup de tranquillité d'esprit, beaucoup de sentir pas seul aussi ça.
Ouais.
Donc ça m'a aidé énormément.
Mm-hmm.
Et après, la deuxième partie, c'est vraiment le côté... analytique, chiffres, comptabilité, parce que mine de rien, on a beau à faire un projet, avoir les valeurs et un super produit, mais si derrière il y a pas, en fait, ça tient pas la route niveau chiffres, ben en fait, on peut rien faire, on peut pas embaucher les gens, donc.
Et c'est important de maîtriser en fait la partie financière.
Exactement, de savoir calculer un coût de revient, des marges, pour que tout tient la route en fait, parce que moi au début je voulais vraiment avoir un café le plus accessible possible, toucher tout le monde.
Mm-hmm.
Mais je me suis rendu compte que les prix que j'avais en tête, ben en fait ça allait pas marcher, parce qu'on oublie des coûts. Et voilà, c'est grâce à lui que j'ai vraiment pu analyser tous les coûts, parce qu'il y a toujours des trucs auxquels on pense pas.
Mm-hmm.
Et voilà, donc ça c'était quand même très important pour la réussite.
Bah oui, surtout que toi, finalement, tu n'avais pas vraiment de formation là-dedans.
Exactement, exactement, c'est ça.
C'était pas ton domaine, en fait.
Exactement, et comme beaucoup de gens, je pense, qui se lancent.
Mmh.
Exactement, donc c'est quand même très important de s'entourer de gens compétents et de... Oui, que ça colle niveau philosophie, niveau produit, mais aussi niveau chiffres, comptabilité, c'est très important.
Ouais, c'est clair, et c'est des aspects qu'il ne faut pas négliger, parce que... Le calcul d'un prix de revient, c'est quand même hyper important, parce que derrière, c'est ce qui fait tourner l'entreprise aussi, quoi.
Exactement, parce qu'au début, on dit « Ah ouais, je vais pas calculer mon salaire, j'ai pas besoin d'être payé ». Du coup, on calcule les mauvais prix, mais ensuite, si on veut embaucher, ben, soit il faut augmenter tes prix énormément, ou il faut continuer de te travailler toi-même, et du coup... partir en burn-out, donc
ouais.
Voilà.
Ouais, c'est... On va éviter.
C'est ça, exactement.
Et là, tu reviens d'un voyage en Éthiopie, et j'ai vu qu'en fait, tu te déplaçais finalement assez régulièrement pour aller voir soit des producteurs de café ou des façons de faire du café. Pour toi, c'est quelque chose qui est important de continuer à être dans cette démarche-là ?
C'est hyper important de vraiment rencontrer les gens, parce que pour moi, le café de spécialité, c'est en fait, c'est pas juste une qualité en tasse. On source pas nos cafés juste par le score ou par sa qualité.
Mm-hmm.
C'est aussi vraiment un côté humain qui est très important pour moi de rencontrer les gens, de se rendre compte comment ils produisent, pourquoi ils font tel choix, c'est quoi leur défi pour être ensemble et pouvoir s'inspirer l'un de l'autre et et aussi pour que nos clients ils puissent vraiment voir d'où vient le café et les gens qui produisent le café. Pour moi, c'est essentiel. Je pourrais pas travailler le café sans ce côté humain et aller sur place voir les producteurs. C'est vraiment, depuis mon voyage en Brésil, c'est vraiment essentiel pour moi.
Et donc, tu as été dans quel pays ? Enfin, tu vois, si tu veux nous parler un peu, peut-être des façons de faire, de ce que tu as pu aussi découvrir en allant sur place.
Oui, tout à fait. Donc, je suis allé en Rwanda, Salvador, Guatemala et maintenant Éthiopie.
Ouais.
Et chaque pays est vraiment différent. On va dire qu'en Amérique centrale, Amérique du Sud, c'est souvent un producteur qui va avoir sa ferme, ses parcelles par exemple. Ça va varier entre, on va dire, 1 et 50 hectares à peu près.
Ouais.
Et ils ont leurs propres arbres, ils font la récolte, ils font le séchage et ils vont commercialiser le café. Ensuite, très souvent... on va passer par un exportateur qui va faire tout le côté logistique et un importateur qui va faire venir le café, donc
okay.
Pour toute la partie transport. Mais c'est souvent comme ça en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Après, certaines plus grandes fermes, ils ont leur propre licence d'export, comme par exemple au Brésil, on travaille avec la ferme d'Utra, et eux, ils exportent eux-mêmes. Et du coup, on rajoute les cafés de famille Sitio Cordilleras dedans. Et Voilà. Mais donc voilà, c'est vraiment des gens qui ont leur propre ferme. En Afrique, c'est très souvent soit une coopérative ou ce qu'on appelle une station de lavage. C'est-à-dire que les gens, les producteurs, ils possèdent très très peu de terre.
D'accord.
Entre 0,1 hectare jusqu'à peut-être 1, 2, 3 hectares.
Okay.
Et donc, en fait, ils n'ont pas assez de café pour le... et pas non plus assez de savoir-faire ou de compétences pour le commercialiser.
Mm-hmm.
Du coup, ils vont cueillir les cerises et l'apporter à ce qu'on appelle une station de lavage.
D'accord.
Qui peut être soit une entreprise privée, soit une coopérative.
Mm-hmm.
Et c'est cette station qui va, en fait, collecter les cerises chaque jour et faire le process de séchage, de fermentation avec et le commercialiser sous le nom de la station de lavage.
Okay.
Par exemple, au Rwanda, on travaille avec Rushashi et Choco. C'est en fait deux villages qui ont leur coopérative et qui ont une centaine de producteurs autour qui apportent les cerises. Et, voilà, donc c'est quelque part, c'est pas une ferme, une famille, c'est plutôt une petite communauté, okay. Un village de producteurs. C'est comme ça en Afrique, c'est différent. Et en Éthiopie, c'est un peu similaire, mais ils ont beaucoup moins de coopératives, en tout cas dans le sud, dans la région de Sidama, Gudji, Yirgacheffe. C'est beaucoup, en fait, des sociétés qui exportent, qui sont propriétaires des stations de lavage,
mm-hmm.
et qui achètent à des petits producteurs autour.
D'accord.
L'avantage, c'est qu'eux, ils exportent eux-mêmes. Donc, en fait, on a un lien direct avec eux. Il n'y a pas d'autres intermédiaires. Et que c'est des gens, on va dire, qui ont peu de moyens. Donc, ils peuvent vraiment bien gérer la qualité.
Mm-hmm.
Parce que parfois, quand on voit sur place, ben, malheureusement, c'est des gens avec très peu d'éducation. Ils font un peu ce qu'ils
comme
ils peuvent,
ouais.
Mais c'est bien aussi d'avoir des gens avec un peu plus d'éducation pour quand même garantir la qualité. C'est souvent comme ça en Éthiopie, mais depuis peu, en fait, le gouvernement a permis aussi à des petits producteurs d'avoir leur propre licence d'export.
Ouais.
Donc on commence à avoir des producteurs qui ont par exemple, on va dire entre 3, 4, 5 jusqu'à 20 hectares,
mmh.
et qui vont avoir leur propre café.
D'accord.
Donc, qui ont leur propre petite station de lavage et ensuite qui vont pouvoir exporter eux-mêmes.
Ouais, directement.
Exactement. Et okay. Ça, c'est nouveau et c'est très intéressant. Et c'est un peu ce modèle que je cherche et okay. qu'on a trouvé pour Tropicawa. C'est Mustapha Abakeno qui, en fait, il a deux petites stations de lavage à Béchacha et Kabira qu'on utilise aussi, que les gens connaissent peut-être de la gamme éphémère. Et voilà, avec lui, on achète différentes qualités qu'on utilise pour différents cafés pour avoir plus d'impact. Et c'est ce modèle qui est vraiment top parce que c'est lui qui fait tout. On n'a qu'un intermédiaire. Et
du coup, tu as une traçabilité totale dans tous les cas.
Exactement.
Mais là, c'est encore plus.
Encore plus. Ouais, c'est okay. ça.
Et justement, toi, comment tu les choisis? Parce qu'il y en a... qui ont quand même des goûts très différents dans les cafés que tu proposes. Enfin, moi, je sais que j'adore celui avec Pado, c'est vraiment mon préféré.
Ok, cool.
mais en plus, je crois que je sais plus où j'avais lu ça, qu'en fait, tu avais aussi des cafés un peu différents selon les saisons, que tu n'étais pas forcément les mêmes. Donc toi, comment tu choisis les cafés que tu as envie de vendre?
Donc déjà, pour moi, le but, c'est vraiment d'essayer d'avoir des cafés un peu pour tous les goûts.
Oui.
D'avoir un premier café comme le Sapas Crème qui fait un pont vers des cafés plus complexes. Parce que les cafés de spécialité, en fait, objectivement, ce qu'on cherche dans un bon café, c'est plutôt une acidité, c'est une palette assez complexe, assez fruitée. Mais les gens n'ont pas du tout l'habitude de trouver ça dans le café. Mm-hmm. Parce que, en fait, les industriels, ils sourcent des cafés verts de moins bonne qualité,
oui.
Qui sont récoltés en une fois, qui ont des défauts. Du coup, ils vont fort les torréfier pour cacher les défauts. Du coup, on obtient un goût très fort, amer, brûlé, et c'est ça que les gens associent au goût de café.
Ouais.
Mais c'est pas ça le vrai goût
c'est
de café.
C'est pas ça le vrai goût, ok.
Mais je voulais pas non plus être trop spécifique ou trop pointu, je voulais vraiment avoir le Sapas Crème qu'on pond vers des cafés plus complexes. Donc on a ça, quelque chose vraiment d'accessible, très rond, chocolaté. Et après, j'essaie d'avoir déjà des process de séchage différents. Parce que un café, en fait, ça, pareil, pour moi, c'est une info qui devrait être écrite sur chaque, sachet, mais ce n'est pas le cas. Un café, c'est des cerises. Et à l'intérieur de chaque cerise, il y a deux graines de café vert. Mmh. Que le but du producteur, c'est de les sécher. Et c'est ce que nous, on va recevoir et qu'on va torréfier.
D'accord.
Et pour arriver de la cerise fraîche jusqu'au café vert, il y a trois méthodes de séchage que moi, je compare à la vinification d'un vin. Avec un pinot noir, on peut faire du vin rouge, mais aussi du vin blanc, selon la vinification. Mmh. B, avec par exemple un bourbon rouge comme variété, on peut le travailler de trois façons différentes. Soit on le sèche en cerise entière, on va parler d'un process nature. Ça va prendre 3-4 semaines et ça va donner des cafés avec plus de corps, plus d'intensité aromatique naturellement présent. Et par exemple, le café de Pado, c'est un nature. Mmh. Deuxième possibilité, c'est cueillir les cerises et tout de suite enlever la peau. Et
d'accord.
Dans ce cas-là, en fait, on récupère le café vert qui est encore entouré par une petite enveloppe qu'on appelle la parche et le miel. C'est un petit jus très sucré, très mielleux. Et si on le sèche comme ça, on part d'un process honey.
D'accord.
Ça va aller un petit peu plus vite, ça va prendre 2-3 semaines et on obtient quelque chose d'un petit peu moins intense, mais quand même bien sucré, bien gourmand, équilibré. Et troisième possibilité, c'est de laisser fermenter ça. Et ensuite, laver tout le miel pour l'enlever, pour que ce soit plus facile à sécher. Et là, on part d'un process lavé.
D'accord.
Et ça va avoir un rendu un peu plus doux, plus acidulé. Et ça va sécher plus vite. Donc, ça va prendre moins de place. Donc, la plupart des cafés, ils sont produits comme ça. Mais selon, en fait, le process de séchage, on va avoir des goûts différents.
OK.
Et j'ai des gens qui veulent, par exemple, que des natures ou que des lavés. Pour moi, c'est très important de partager cette info. Et c'est quelque chose qui est pas très connu.
Ouais, non, toi, j'ignorais totalement, quoi.
Voilà. Mais maintenant, tu sais.
Maintenant, je sais.
Voilà. Donc, on essaie d'avoir différentes origines, différents process, différentes variétés. Donc, ça, c'est des variétés d'arabica qu'on peut comparer aux cépages, qui vont tous avoir leur typicité. Par exemple, du geisha, katura, katuai, tipika, ils vont tous avoir des typicités un peu différentes.
Ouais.
Et finalement, le degré de torréfaction.
D'accord.
Donc on va avoir des torréfactions plus claires qui vont préserver des notes florales, acidulées, fruitées, qu'on va plutôt conseiller pour le café filtre, pour quelque chose de doux, juté, soyeux, avec très peu d'amertume. Ensuite, des torréfactions un petit peu plus poussées pour avoir quelque chose un peu plus équilibré, qui va donner en filtre quelque chose d'équilibré avec plus de corps, ou en espresso, justement, à l'inverse, quelque chose de plus acidulé, plus fruité. Parce que quand on va le préparer en espresso, on va toujours avoir plus d'acidité qui sort.
D'accord.
Et ensuite, des torréfactions espresso, donc qui vont être plus torréfiés, qui vont être plus solubles, avoir plus de corps, un petit peu moins d'acidité, un petit peu plus d'amertume, voilà, pour avoir quelque chose de plus intense et plus équilibré.
Okay.
Donc c'est comme ça qu'on va avoir différents cafés, en fait, avec différentes matières premières, et qu'on va structurer en trois gammes. On a une gamme permanente, ce qui reste des origines pures, mais qu'on va avoir sur toute l'année, avec justement trois cafés très différents, donc le Sapas Crème Brésil, très, très rond, chocolaté pour espresso, le Tropicawa, qui est un Éthiopie lavé, très peu torréfié, donc plutôt pour le filtre, et le Endless Summer, qui est un café de Birmanie en process nature, qui est vraiment l'entre-deux. Voilà. Et ensuite, on va avoir une gamme éphémère c'est des cafés un petit peu plus complexes qu'on va mettre en avant quand ils sont en saison. Parce que chaque pays va récolter une fois dans l'année. Et ensuite, on va avoir, on va dire, un an pour utiliser le café vert.
D'accord.
Après, il va commencer petit à petit à avoir un goût boisé qui s'installe et on commence à perdre les arômes.
Okay.
Mais c'est pas d'un coup, c'est petit à petit. Donc, vu que c'est des cafés un peu plus complexes, on va essayer de les travailler quand ils sont en saison, quand ils sont le plus frais possible. Donc, c'est des cafés qu'on va avoir pendant 3 mois à peu près. Et après, ils reviennent l'année d'après quand ils sont à nouveau en saison.
D'accord.
Et finalement, on a une gamme de grands crus. Donc, c'est souvent lié à des variétés qui donnent peu de cerises, mais très, très aromatiques, comme le geisha, sidra. C'est des profils très fruités, très florals, qui sont vraiment très expressifs et qu'on adore. Et qui, en fait, chaque café qui est produit est évalué à l'aveugle sur une échelle de 100 points. Sur
D'accord.
les arômes, acidité, corps, fin de bouche. Et on obtient un score sur 100 points. À partir de 80 points, on parle d'un café de spécialité.
Oui, j'allais te demander du coup, qu'est-ce qui fait qu'un café est un café de spécialité ?
Ouais, voilà, minimum 80.
D'accord.
Mais pour y arriver, en fait, il faut justement cueillir que les cerises mûres, faire un séchage lent et contrôlé. Donc voilà, ça demande plus de travail. Mmh. Et c'est vraiment ça qui explique que les cafés sont plus chers.
Ouais.
Parce que les producteurs, ils vont faire 3, 4, 5 passages sur un même pied pour que prendre les fruits mûrs
au bon
lieu
moment,
de tout
en fait.
Récolter en une fois.
Okay.
Donc rien que ça, ça demande déjà beaucoup plus de temps et
ouais,
de,
évidemment.
De coûts. Donc voilà, notre gamme permanent, c'est des cafés qui sont notés entre 83 et 85.
Okay.
La gamme éphémère, 85-87. Et la gamme grand cru, c'est des cafés notés 88 plus.
D'accord.
Voilà, ouais. Ça explique un peu les.
Ça marche. Et ça, c'est un nom, cette grille de notation
C'est la SCA, c'est la Specialty Coffee Association qui détermine ça. Donc
d'accord.
C'est ce qu'on appelle le score SCA.
Ok. Ça marche. Et toi, comment tu vois aussi ce mouvement? Parce que, en fait, c'est vrai que, on revient un peu plus de 10 ans en arrière, c'était pas. Enfin, il y en avait un petit peu à Paris, par exemple, peut-être un peu sur Bruxelles aussi. Mais, c'était le café, c'était vraiment. Enfin, c'était pas. Comment on va dire, c'était un peu un parent pauvre. Enfin, tu vois, je sais pas que c'était dans les restos, des fois les machines qui sont pas forcément très bien entretenues, donc le café il a vraiment un goût de brûlé, pas génial. Et là, c'est vrai qu'on voit quand même une volonté de redécouvrir le goût du café, enfin, de la part en tout cas des consommateurs, de renouer avec ça. Et en fait, forcément, il y a plein d'endroits qui se créent parce qu'il y a aussi cette demande des consommateurs. Toi, comment tu vois ce mouvement-là?
Je pense que, en effet, ça a pris un petit peu de temps à Lille et en France d'une manière générale comparé à des pays, par exemple la Belgique, Pays-Bas, Angleterre, parce qu'on est peut-être un peu plus conservateur, je sais pas. Je pense qu'il y a tout le mouvement de la microbrasserie qui a énormément aidé. Par exemple, les IPA, maintenant, c'est devenu tellement normal ou différent.
On va
dans un bar et on trouve plein de choix de bières différentes.
C'est vrai, c'est vrai. Ben, alors
en fait, pour moi,
pas
c'est
comme ça,
exactement. Donc, ça, peut-être aussi le mouvement de vin nature, d'avoir des choses un peu plus, je sais pas, plus naturelles, moins trafiquées, avec des goûts plus originaux.
Mm-hmm.
Mais je pense surtout, vraiment, je vois plus de parallèles peut-être encore avec les microbrasseries, d'avoir vraiment des goûts différents. Je pense ensuite le fait que, mine de rien, avec le confinement, il y a énormément de gens qui ont acheté des broyeurs.
Ouais.
Des machines automatiques et du coup qui cherchaient du café en grains, qui allaient du coup en supermarché, on n'a pas beaucoup de choix, donc ils commencent à aller chez les torréfacteurs découvrir. Et je pense qu'une fois que les Français, ils ont quand même cette notion de terroir, ils sont prêts à dépenser plus dans un bon produit, mais à condition qu'ils sentent que la différence, qu'il y a vraiment un intérêt gustatif. Et je pense qu'une fois que les gens ont goûté, ont compris, ont fait le parallèle avec du vin, par exemple, ben ça y est, ils comprennent, ils sont prêts à payer plus. Et je pense que c'est comme ça que petit à petit, ça s'est développé et que du coup, que ça aussi, c'est plus ancré. C'est pas juste une vague de mode,
Oui, c'est vraiment une tendance de fond, quoi, ça, qui va
exactement,
rester.
Exactement.
Ouais, puis on prend l'habitude du bon café. Enfin, je veux dire, après,
et c'est
on a
difficile
du mal,
de revenir en arrière, exactement.
Des fois, on se retrouve, je sais pas moi, ça m'arrive, j'ai des déplacements de temps en temps, et parfois, forcément, il m'arrive de faire une pause au milieu quand je vais genre un peu en Normandie ou ailleurs. Genre, Caen est quand même quasiment 4 heures de route, donc souvent, je m'arrête dans une station service, et là, je bois du café là-bas et je me dis c'est pas possible.
Ouais, c'est ça.
On n'a plus l'habitude de boire du café un peu moyen, quoi. Enfin,
ouais.
Donc,
exactement. Et c'est souvent parfois encore plus comme ça en revenant en arrière qu'on se rend compte de la différence.
Ouais.
Et c'est ce que j'essaie aussi de faire de temps en temps, de juste de boire un café normal ou de se rendre compte de ce que c'est.
Mm-hmm.
C'est bien aussi d'avoir ce référentiel.
Ouais, non, c'est clair, c'est sûr, ça fait du bien. On se dit, ah, en fait, là, Shake Up, il est vraiment bien.
Ouais, exactement, c'est ça.
Et pour toi, Dayo, tu vois, là où tu en es de l'histoire de Café Mouda, c'est quoi un petit peu, soit tes rêves ou les trucs que tu aurais envie, enfin, là où que tu aurais peut-être envie d'expérimenter, des choses que tu aurais envie de faire pour la suite de ton projet?
Oui, c'est une bonne question. Mon envie, c'est quand même vraiment essayer d'avoir le plus impact possible pour les producteurs avec qui on travaille. Donc, je veux quand même essayer de grandir un petit peu pour justement toucher le plus de personnes possible, d'essayer vraiment d'apporter le café de qualité dans le plus d'endroits possible, mais quand même vraiment rester à Lille. Parce qu'ailleurs en France, il y a d'autres acteurs qui travaillent très bien. Donc j'ai cette volonté de rester local. Mais voilà, peut-être à terme, ouvrir une boutique un peu plus dans le centre. Mine de rien, on est quand même un peu excentré ici. Et ça pourrait être cool d'avoir notre place aussi au
plus
cœur
au
de ville.
Ville ouais.
Mais voilà, rien de concret. On va chaque chose à son temps.
Ouais, c'est sûr, il faut avancer pas à pas en fait. Au final, pas se précipiter non plus.
Exactement. Et après, ouais, c'est quand même mon rêve peut-être toujours essayer de connecter les producteurs avec les consommateurs. Donc peut-être pouvoir amener nos clients chez des producteurs ou vice versa, inviter des producteurs ici, ce genre de choses.
Ouais, pour qu'ils puissent rencontrer eux les personnes qui boivent leur café.
Exactement.
Quoi. C'est cool. C'est vrai que ça serait super.
Ouais.
Et à part la personne qui est ton mentor, est-ce que tu fais partie, je sais pas, de réseau d'entrepreneurs ou pas forcément, toi?
Non, après, j'ai beaucoup d'amis, confrères en France, dans le monde de café, donc... Voilà, j'ai plein de gens à qui je peux poser des questions si besoin.
Okay.
Il y a beaucoup d'entraide, donc ça, c'est vraiment cool.
Ça y est, ma question est bien revenue. Est-ce que tu vois, dans tes clients pro, par exemple, est-ce qu'il y a je sais pas, des fois, peut-être des endroits, des restaurants ou des lieux où tu es vraiment fier de te dire que tes produits soient proposés aux clients. Est-ce que tu as des endroits où, quand ils ont eu envie de travailler avec toi, tu t'es dit waouh, c'est fou?
Je pense, après, il y a tous les clients avec qui je travaille, je suis super content et je suis aussi très content qu'on a des clients très divers. Ce qu'on a, par exemple, le Lyoté, qui est une brasserie très populaire du quartier qui sert notre café, c'est vraiment ça que je voulais faire. Je ne veux pas que le café de spécialité, ça, c'est quelque chose de snob qui est uniquement
bourgeois.
Voilà, bourgeois, exactement.
Ouais, okay.
Donc, je suis très fier de ce genre de clients, de bars qui m'ont fait confiance. Top. Et voilà, après tous les coffee shops, les restos. Et après, de l'autre côté, ça, c'est quand même vraiment une fierté, c'est Roseau qui m'ont contacté, donc restaurant une étoile. Et en plus, en fait, ils prennent pas uniquement le sapas crème, mais aussi un de nos grands crus, le Sidra de Nestor Lasso. Donc, c'est vraiment génial que un restaurant étoilé, il met l'accent, il va jusqu'au bout, il peut aussi proposer un super café en fin de repas. Et ça, je suis très content
c'est super,
qu'ils aient fait ce choix.
Ouais, clairement. Puis c'est vrai que la scène gastronomique lilloise, moi je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des trucs nouveaux qui ouvrent tout le temps. Enfin, en ce moment,
c'est top.
Des endroits, je sais pas, à la fois resto, bar à vin, avec des concepts et tout, et qui ont aussi envie, je pense, que ça leur tient à cœur de pouvoir proposer une carte à la fois de produits nature, sur toute leur carte, en fait, d'être dans une recherche de ça. Et c'est vrai que je me dis, du coup, j'imagine qu'eux, ils viennent aussi te voir pour avoir cette cohérence globale au niveau de ce qu'ils peuvent proposer dans leur carte, quoi.
Ouais, carrément, c'est ça.
Ah, trop bien. D'ailleurs, je crois que chez Ginkgo, c'est ton café ou pas?
Aussi, ouais,
aussi,
carrément.
Hein.
Ouais. Ouais, en fait, il y a plein de... C'est difficile de faire un choix. Il y a tellement de restaurants avec qui on est super content et fier de travailler. Mais ouais, Rose, c'était le premier, on va dire, de ce niveau qui avait fait le choix de travailler avec nous et en plus de proposer vraiment un grand cru, avoir deux moulins. Donc,
D'avoir vraiment un parti pris, en fait, de donner du choix à ses clients.
Exactement, exactement.
Trop bien. Je sais pas, est-ce que tu avais d'autres choses dont tu aurais eu envie de parler ou est-ce que tu penses qu'on a fait un peu le tour? Je sais pas.
Non, je pense que c'est... Moi, ouais, je pense que c'est bien, ouais.
Ouais, trop bien. On a balayé pas mal de sujets.
Ouais, c'est ça.
Ouais, exactement. C'est cool. Moi, j'ai appris plein de trucs en plus. Je suis trop contente.
Super.
Je pense que les auditeurs aussi, ceux qui connaissent pas forcément, bah, toi, ce que tu as expliqué sur les processus de séchage du café, que j'ignorais complètement. Donc, c'est trop cool. Merci pour ça, en tout cas, Dayo.
Avec grand plaisir. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions.
Ils peuvent passer
à la boutique. Ou envoyer un message sur les réseaux, par mail. Ouais.
Trop bien. Et du coup, je vais pouvoir te poser les petites dernières questions du podcast que j'aime bien. Alors moi, j'aime beaucoup de choses, notamment les livres, le cinéma, la musique. C'est vraiment des trucs qui sont hyper, hyper essentiels dans ma vie. Et donc, j'aime bien quand mes invités me recommandent soit un bouquin, une musique, un album ou un film qui les a marqués. Donc, je ne sais pas si toi, tu avais quelque chose à recommander.
Ouais, j'ai réfléchi un petit peu. Moi, je ne suis pas du tout livre. Je n'arrive pas à finir des livres.
Ouais.
Pas trop cinéma non plus. Pour moi, c'est vraiment la musique. C'est vraiment ma drogue qui me touche beaucoup.
Je peux comprendre ça.
Et en fait, je suis peut-être une des rares personnes qui est un peu... J'écoute jamais les paroles de musique.
D'accord.
Je suis toujours... Ce qui me touche, c'est les mélodies, et les structures de musique. Donc, j'écoute beaucoup de musique électronique... de tout genre. Hein. Et je pense que si je devrais choisir un album, ça serait Psychic de Darkseid.
Okay.
Je
ne
sais pas si tu connais.
Non.
C'est un duo, c'est Nicolas Jarre, qui est multi-instrumentaliste et compositeur, et Dave Harrington, qui est un bassiste.
Okay.
Et en fait, ils ont fait... c'était leur premier album, là, ils ont en sorti un deuxième, mais Psychic, c'est vraiment... C'est un voyage, il faut mettre ça avec un bon son dans les oreilles, et c'est incroyable comment ça évolue, et ça... Il y a des surprises derrière chaque coin de rue, c'est incroyable.
Ah, génial. Bah, j'écouterai ça. En plus, moi, j'aime découvrir de nouvelles choses. Tu vois, ça me passionne aussi. Rencontrer des personnes et puis aussi découvrir des nouvelles choses. Et justement, si toi, tu avais quelqu'un à me recommander ou tu te dirais, j'aimerais bien qu'il passe à ton micro.
Eh bien, il y a beaucoup de gens talentueux et que je respecte beaucoup le travail. Si je devrais choisir une personne, je pense que je te recommande Olivier Vendrome, qui est un super boulanger.
Ah oui, c'est vrai.
C'est en fait, je l'ai découvert à travers Alex Croquet, c'était son maître, que j'adore son pain. Et quand Olivier s'est installé à Bombrechy, les quelques fois que j'ai goûté, c'était vraiment super. Mais au début, c'était un peu loin, donc j'y allais pas tout le temps. Et en fait, après, il nous a contactés et on a commencé à travailler ensemble. Et maintenant, il a ouvert plusieurs boutiques. Et ce que je trouve fou, c'est qu'en grandissant, il a vraiment gardé la qualité. À chaque fois que j'y vais, c'est bluffant. C'est vraiment... pour moi, les produits que je... Quand il me touche, je ressens une émotion, c'est que c'est ça en fait. Avec lui, quand tu manges son pain, ses viennoiseries, c'est super bon. Et en plus, il a une vraie philosophie. En fait, pour moi, c'est peut-être le premier ou un des premiers qui a commencé à utiliser du blé cultivé ici, dans les Hauts-de-France, juste à Bombrechy. Je pense qu'il a participé à investir dans la culture de blé bio. Donc voilà, il a plein de valeurs qui me sont très proches. Et en plus, la qualité, elle est vraiment top. Donc je te recommande d'aller le voir.
Ok, et ben je note. Et ben en tout cas, je te remercie beaucoup, Dayo, pour tout ce que tu as partagé pendant cette conversation. C'est très beau. Et donc, si les gens veulent te retrouver, il y a les réseaux sociaux et puis le site de Café Mouda, c'est ça? Et puis la boutique, c'est rue d'Arras, hein, c'est ça?
C'est ça.
Pas de bêtises. Okay.
Super.
Génial. Ben merci beaucoup.
Avec plaisir. Merci.
J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous appréciez ce travail, partagez le podcast autour de vous, abonnez deux personnes de votre entourage et dites-le-moi sur Apple Podcasts ou Spotify. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Boussole. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de regarder votre étoile polaire.